19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 228e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. On vous retrouve après 4 semaines d'absence. Pierre et moi n'étant pas disponibles, et je ne veux pas révéler...
C'est des rhumes.
Médicale. Voilà, c'est le fameux syndrome de Lille, paraît-il, qui aurait une bronchite particulière à la ville de Lille. Donc... Faites attention, mais Pierre avait une légère extinction de voix qui ne lui permettait pas d'assurer l'émission, et moi, je n'étais pas là. Enfin, bref, c'était pour hashtag vie privée. On va commencer donc par l'actualité des, non pas 2 semaines, mais des 4 semaines écoulées. On va commencer avec Internet et Free, l'opérateur téléphonique, mobile, Internet, qui passe à, enfin à la VoLTE, donc la voie par 4G, donc le LTE protocole, ce qui illustre pour Pierre le problème des nouvelles technologies mobiles.
Tout à fait. Il y a une petite subtilité que j'aime pas trop dans l'annonce de Free. Et en fait, la plupart des opérateurs font ça sur la VoLTE. C'est une nouvelle technologie pour le transfert de la voix. Alors, meilleure qualité, retour de l'être aimé, tout ce qu'on veut, hein, comme d'habitude sur les nouvelles technologies mobiles. Et là, en particulier, il y a un truc qui me gêne. C'est qu'ils ont annoncé que pour bénéficier de la VoLTE, il faut un terminal compatible. Mais diable, qu'est-ce qu'un terminal compatible avec la VoLTE? Il suffit de regarder la fiche du terminal et il écrit VoLTE. Eh bien non. L'opérateur a décidé de sa propre liste de terminaux qui sont acceptés sur son réseau pour l'instant. Et c'est là que ça pique et je trouve ça assez malsain. C'est finalement, pour bénéficier d'un service optimal auprès de l'opérateur, il va d'abord falloir regarder ce que font la technologie de l'opérateur, mais en plus, la liste des restrictions de terminaux de l'opérateur. Et ça me gêne beaucoup. En fait, c'est
pas spécialiste, excuse-moi Pierre, en VoLTE, mais est-ce qu'il y aurait plusieurs protocoles qui feraient qu'il y aurait des incompatibilités?
En fait, c'est un protocole qui est relativement compliqué, mais en plus, c'est un protocole à tiroir, on va dire. Il y a plusieurs normes qui sont gérées, il y a plusieurs codecs possibles, etc. Et ben, du coup... Il y a des options, tous les terminaux n'ont pas fait les mêmes choix d'options, et du coup, bah forcément, il y a des incompatibilités. Et en plus, bah s'agissant de la voix, les opérateurs vont être très frileux, il faut que ça marche. C'est le téléphone, depuis l'invention du téléphone, c'est je décroche, je dis allô, la voix est transformée en signal analogique, et ça passe tout seul.
C'est vrai comment on a l'habitude dans le monde de l'informatique. Il y a des pannes, ça ne fonctionne pas, je dirais que c'est presque consubstantiel de l'informatique. Oh, il y a une panne informatique. C'est presque acquis depuis que ça existe que ça peut ne pas fonctionner. Alors que le téléphone, sauf panne généralisée, on n'a pas l'habitude des pannes de téléphone. C'est très rare. Donc, oui. C'est quelque chose qui est attendu pour fonctionner.
Mais du coup, là, comme on introduit des complexités dans la technologie, les opérateurs font le choix du coup de limiter eux-mêmes là où le client a une liberté, c'est-à-dire la liberté du terminal qu'il utilise sur le réseau. Les opérateurs vont brider là-dessus. Et donc, les personnes qui possèdent des terminaux exotiques, au hasard des PinePhone, Oui, le PinePhone, c'est le meilleur exemple que j'ai en tête, parce que c'est hyper exotique, vous ne trouverez pas franchement plus exotique que ça.
Même les Fairphone ?
Ah, même les Fairphone, c'est mainstream à côté.
D'accord.
Ah oui, non, les Fairphone, c'est pas du tout exotique par rapport aux PinePhone qui utilisent un assemblage de puces... qui sont pas franchement des puces qu'on voit souvent dans les téléphones portables, uniquement avec comme critère, il faut que ce soit le plus libre possible. C'est pas le critère du Fairphone. Le Fairphone, c'est réparable. Et du coup, bah, les téléphones alternatifs, eh ben, au revoir. D'ailleurs, tu parles de Fairphone. Je suis sur la page de nos amis de chez Free. Fairphone, oh, il est pas présent. Et pourtant, là, c'est...
Finalement, je vois ton écran, Pierre, elle a pas l'air très remplie, ta liste.
Ah non, non, non.
On connaît quand même la diversité des téléphones mobiles. Alors, peut-être qu'il y a tendance à être de moins en moins vrai, Quoique, avec les modèles chinois, on a retrouvé une certaine diversité. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de...
La liste est courte, vraiment assez courte. Et en plus, bah, du coup, ça va faire... pour le coup, ça va être une grosse différence qualitative parce que, effectivement, hein, les appels en VoLTE, c'est largement mieux que les appels classiques en qualité, etc. Je ne le nie pas parce qu'effectivement, il y a une vraie différence parce que la technologie GSM est très vieille et on fait largement mieux depuis. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de passer à cette nouvelle technologie. Mais voilà, le coût, ben c'est que tous les téléphones non compatibles. Au revoir. Mais j'ai envie de dire, un vieux téléphone qui n'a pas la technologie. Ok, soit, on le prend, on ne peut pas l'utiliser, c'est logique. Mais là, c'est les téléphones que l'opérateur considère comme pas intéressants. Tant pis, hein, c'est pas grave.
Comme Free vend également des téléphones, ça pourrait éventuellement correspondre avec la liste partiellement de ceux que Free commercialise sur sa boutique.
J'ai pas pris le temps de chercher. C'est une bonne idée. Je sais pas si j'aurai le temps pendant les pauses. Mais oui, c'est rigolo. Bah attends, hop, il y en a un.
Bon, Pierre, on fera la recherche. Eh
ben non, ça ne correspond même pas apparemment.
Ça ne correspond même pas.
Oui, je le trouve pas sur la liste.
Don't do evil, c'était le mantra, le slogan de Google pour ceux qui ont connu ce temps-là, il y a 10-15 ans, ça a bien changé. Maintenant, ce serait plutôt Google is evil, comme l'a dit très bien un journal de LinuxFR. Pierre, donc, on a eu le contenu d'une plainte, le contenu d'une plainte a été publié, une plainte contre Google, donc où, effectivement, il y a de forts soupçons d'abus de position dominante, dire que ça... Ça ne nous surprend pas, on ne tombe pas de nos chaises, mais tout de même, ça donne des éléments objectifs sur, je dirais, des comportements qui étaient fortement soupçonnés.
Oui, là, il y a 173 pages de plainte, donc il y a du volume à digérer, hein, on ne va pas le faire ici, mais franchement, il y a du beau. Donc, dans l'eau, il y a toutes les mesures qui ont été mises en place pour assurer la domination sur le marché des publicités, notamment le fameux Google AMP. Alors c'est pas très connu, hein. C'est une technologie que Google a mis en place et a imposé par chantage à différents sites web en disant « Ah mais si vous prenez cette technologie, ça améliore votre référencement. » Et surtout, ça fait que vous dépendez de Google pour les publicités.
Mais... C'est vrai que quand vous lisez pas mal d'articles de journaux, vous tombez quand même souvent sur des pages web où c'est à cause de Google AMP.
Tout à fait. Et donc, par exemple, ils ont eu un plan qui s'appelait le Projet Nera. Je l'aime beaucoup, celui-là, ça illustre vraiment... Juste se concentrer sur celui-là, c'est une bonne illustration du comportement de Google. Le Projet Nera, c'était de transformer le web en ce qu'on appelle un walled garden en anglais. Donc, comment le traduire? Un jardin avec des barrières. Donc, c'est-à-dire une propriété privée pour Google, qu'ils appelaient...
Un précaré,
merci. Merci. Et donc, ils appelaient ça « not owned but operated ». Donc, il ne nous appartient pas, mais on le gère. Et donc, en gros, leur plan, c'est de transformer Internet en leur domaine. Et notamment, un élément clé dans cette stratégie, et on en parle régulièrement sur cette émission, hein, je vous en supplie, arrêtez d'utiliser le navigateur Google Chrome, puisque ça fait partie intégrale de cette stratégie. Le but avec Google Chrome... c'est que Google soit en mesure de contrôler votre accès à Internet, et notamment ce qui a été fait dans Chrome et qui a été fait d'une manière dégueulasse et imposé à tout le monde avec des gros problèmes, c'est que lorsqu'on se connectait avec le compte Google, le cookie Google qui était généré, Chrome allait le lire pour dire « Ah, mais du coup, je suis le navigateur Chrome de l'utilisateur Tartampion. » Et du coup, vous connectiez votre navigateur à votre compte Google, et là, forcément, ça activait toutes les fonctionnalités qui allaient avec, ou Google récupérait votre historique Internet, les sites que vous consultiez, vos logins, vos mots de passe. Le paradis.
Et donc, c'est assez ironique, en fait, Pierre, parce qu'on se souvient, au début des années 2000, on avait ringardisé les tentatives du début des Internets qu'avaient faites les grandes sociétés informatiques, Microsoft avec MSN ou AOL, les portails captifs. Ça semblait donc une tentative de récupération et d'appropriation d'Internet qui était tombée en désuétude. Et finalement, avec la recentralisation des services Internet, ça revient par la fenêtre.
Ah, complètement. On l'a ringardisé, on a dit oui, c'est n'importe quoi, heureusement ça se produira jamais comme ça. C'est exactement ce qui se passe, sauf que là, tout le monde l'accepte dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est Google, ils peuvent rien faire de mal. Ils ne font rien de mal, voyons.
Google a également, là c'était quand même des entreprises qui étaient un peu des éléphants dans un magasin de porcelaine, surtout Microsoft qui voulait absolument utiliser sa puissance pour entrer dans Internet. La Google, c'est une entreprise qui est née d'Internet.
Oui.
Qui a la culture, qui a les codes. C'est beaucoup plus pernicieux.
Oui, c'est plus pernicieux. Et puis après, Microsoft, il faut l'admettre, Microsoft a été largement brimé par le département de la justice américain dans les années 90. Heureusement.
Il faut plutôt le reconnaître. Au département de la justice américain.
Tout à fait. Mais du coup, le fait que Microsoft se soit fait brider à l'époque, c'est ce qui fait que Microsoft n'a pas pu non plus rentrer dans cette position. Ils ont été largement freinés, et heureusement qu'ils ont été freinés d'ailleurs.
Si vous n'avez pas Facebook, vous avez été quand même, je pense, au courant qu'il y a eu une panne, ne serait-ce que parce que vous utilisez un autre réseau social tel que Twitter. Ça me permet de connaître les pannes Facebook. Donc 6 heures sans Facebook, vivement la prochaine fois, Pierre, mais...
Ah ben oui, moi j'ai hâte. Hein. Justement, c'est un petit pot pourri sur tout ce qui s'est passé sur autour de Facebook ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, il y a eu 6 heures de coupure de Facebook sur Internet. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Techniquement, ce qui s'est passé, ils ont fait une mise à jour de leurs routeurs, des routeurs dits de bordure, donc les routeurs qui géraient la connexion entre le réseau Internet et le réseau Facebook, puisque Internet, c'est le réseau des réseaux. Mais ben là, le réseau Facebook avait disparu du réseau Internet. Ça marchait beaucoup moins bien. Et dans le lot, il y a eu une petite anecdote, mais qui m'a beaucoup fait rire, c'est que la panne a duré plus longtemps à cause des restrictions sanitaires. Pourquoi ? Eh bien parce que les salariés n'étaient pas dans les locaux. Et pire, quand ils sont arrivés pour rentrer dans les locaux, les portes avec les badgeuses ont refusé les salariés parce que le réseau Facebook n'était pas disponible. Et donc, leur système interne dépendait de leur propre réseau. Et comme leur réseau était cassé, ils ne pouvaient plus rentrer dans les bâtiments, ça les a retardés considérablement, paraît-il.
Et il y a des architectes chez eux, réseau, ou des gens qui pensent à ce qu'un réseau de sécurité doit être séparé du reste du réseau.
C'est le problème majeur de l'informatique aujourd'hui, c'est qu'on empile, on empile, on empile, on empile, on empile, et puis au bout d'un moment, on ne se souvient plus ce qu'on a mis tout en bas. Et du coup, on ne se souvient plus que, ah merde, notre réseau, le matériel du réseau, pour y accéder... On a besoin de passer un badge qui dépend du réseau. On l'a oublié. Il y a des tas de cercles comme ça qui ont été mis en place partout et c'est une catastrophe. Après, du coup, au niveau des nouvelles de Facebook, d'ailleurs, petit rappel, on en a déjà parlé, hein, mais donc il y a des litiges en ce moment, hein, des tout petits litiges, avec notamment une femme donc, qui mérite d'être nommée. Attendez, je vous retrouve juste son nom parce que j'ai une mémoire des noms qui est exécrable. Je retrouve plus son nom. Francis Hogan.
Donc, il a transmis les Facebook Files donc, à des parlementaires américains et à plusieurs médias, dont Le Monde.
Tout à fait.
Le Monde qui a publié donc, d'ailleurs un article qu'on pourrait surnommer Chérie, on a perdu l'IA.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'empilement, on va dire, d'algorithmes, c'est-à-dire que. Normalement, un algorithme, ça traite des données relativement connues. On sait ce qu'on va avoir en entrée et on prévoit à peu près ce qu'on aura en sortie. Là, à force de faire des algorithmes qui vont traiter des données, on ne sait pas lesquelles, à partir de critères qu'on ne sait pas lesquels non plus, hein, typiquement sur le classement des publications, des algorithmes en fonction du nombre de partages, son nombre de partages par qui, vous allez empiler les formules mathématiques, hein, ce qu'on appelle l'algorithme avec un grand A, et ce qui... l'objet de polémique est souvent caricaturé par les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un algorithme. On est arrivé cette fois-ci à un fonctionnement tel que même les ingénieurs de Facebook ne savent pas comment fonctionne leur propre algorithme. C'est-à-dire que quand ils veulent essayer donc de modifier leur traitement pour éventuellement ne plus mettre en avant les contenus les plus polémiques ou les contenus... racistes ou extrémistes politiques, ils se rendent compte qu'ils en sont incapables. Ils ont essayé en 2018 de le faire, et ça fait encore pire. C'est-à-dire que là, ils avaient voulu mettre plutôt en avant, plutôt que les contenus les plus polémiques, les contenus qui ont été likés, qui sont partagés par les connaissances. Mais l'effet pervers, c'est que du coup, ça a mis en avant les propos qui étaient mis en ligne par les connaissances de connaissances. Et souvent, vous voyez, souvent ce que... Pour connaître des gens qui utilisent Facebook, certaines catégories, certaines générations qui vont commencer à partager les propos polémiques les plus, on va dire, forts, les plus intrigants.
Ouais.
Toujours un mot qui m'échappe, moi aussi, Pierre. Je le retrouverai. Enfin bref, on s'est retrouvé donc avec des mécanismes complètement incontrôlés. Typiquement, il y a un score, c'est-à-dire de popularité d'une publication. Sa médiane est à 100. Sauf que ça peut arriver jusqu'à plusieurs milliards.
Oui.
Sauf que ce qui avait été fait, ce qui était prévu pour, on va dire, réduire l'impact des publications les plus populaires, c'était de diviser par 2 ou par 3. Sauf que si vous prenez une publication qui a un score de plusieurs milliards, alors que la médiane est à 100,
bah forcément,
vous pouvez
celle-là
diviser par 2 ou par 3, c'est-à-dire qu'en en valeur absolue, elles passeront toujours largement au-dessus.
Et donc on crée des bulles d'informations, on crée tout un ensemble de phénomènes catastrophiques.
Mais là, il y a un truc à chaque fois, bon, j'utilise, je vais vous avouer, le service YouTube de Google, pour les vidéos, comme beaucoup. Bon, j'ai un compte, ce qui fait que, alors, effectivement, je suis un peu dans une bulle, je retrouve ce que j'ai recherché. Sauf que, essayez de vous connecter à YouTube sans compte Google, sans vous être authentifié. Ça fait peur, ce qu'on vous met par défaut.
Tout à fait.
Très peur. C'est une espèce de capharnaüm de propos putassiers, de vidéos extrémistes ou de machins complotistes ou de complètement what the fuck anti-scientifiques.
Exactement.
Ça fait peur. C'est très peur.
Et pour finir sur YouTube, sur Facebook, pardon, Facebook change de nom, on devient Meta uniquement pour pouvoir dire mais le métaverse, c'est nous. Et juste petit rappel, le métaverse, qu'est-ce que c'est selon YouTube ?
Second Life 2.0.
C'est exactement ça, c'est Second Life 2.0. Mais en gros, c'est une comme le monde réel, mais en virtuel et vachement plus mieux. Parce que comme ça, tout sera interconnecté. On pourra acheter un t-shirt numérique, le porter lors de soirées virtuelles avec des amis ou lors d'une réunion de travail, etc. Et notre avatar et notre identité sur le métavers, et on peut se connecter et rejoindre des parties de jeu avec des amis ou les inviter dans notre maison virtuelle. Juste une chose. Je remplace métavers par Internet et cette phrase marche tout autant. Parce que, en fait, ce que Facebook fait là, c'est faire croire que parce qu'ils ont mis de la VR, donc la réalité virtuelle, et les technologies un peu avancées avec les casques de réalité virtuelle, juste parce qu'ils ont mis ça, ils ont créé un nouveau réseau qui est vachement plus mieux et différent d'Internet. Mais c'est pas vrai. Et c'est juste, c'est important à retenir parce qu'ils vont nous baratiner des trucs sur ce machin-là pendant plusieurs années maintenant, là, puisque c'est le gros projet qu'ils ont lancé. Attention, alerte au bullshit.
Merci Pierre, nous allons diffuser un premier morceau de musique, une petite pause musicale, et on va commencer par Zero Project, Blind Girl. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
All those times that you were happy, she was always next to you, and all the times that you were crying, she was the friend you could hold on to. Blind girl, lurking in my dreams, you're the bad witch that wants to weep, hurting me and loving life. I try to make you see the truth till now, blind girl, your eyes on color. Blind girl, your soul is cold, your inner voice is being hammered, and your mind's far as your love. Blind girl, your eyes are covered. Blind girl, your soul is cold.
soul is cold. C'était Zero Project Blind Girl. Vous écoutez Les Codes Nous sur Radio Campus 106,6. C'est la deuxième partie de l'actualité. Vous l'écoutez également sur la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Je suis Berlin Adopi.
Et le point Adopi, Pierre, ça faisait longtemps.
Ben et surtout, on va plus pouvoir le faire très longtemps. Elle va changer de nom.
Oui,
c'est horrible.
Ce cas-là, pour marquer le coup, on en profite encore. La riposte graduée existe toujours.
Si, paraît-il.
Je vous l'assure. En tout cas, c'est la Adopi qui l'affirme. Mais elle a beaucoup moins fonctionné en 2020. Pourtant, en 2020, je pense que tout le monde est au courant. Il y a eu certaines perturbations dans les activités économiques, humaines de manière générale. Et on était quand même une bonne partie de l'année assigné à notre domicile. Pour une bonne raison, mais tout de même, on n'a pas eu la vie que l'on menait d'habitude. Quoique, bon, ça dépend des gens. Et donc, si en 2017, il y avait eu encore 1 800 000 premiers avertissements par la Adopi, par le pré-gendarme, suivi de 143 200 deuxièmes avertissements, bon, mine de rien, c'est vrai que le premier avertissement, il marche plutôt. On se retrouve avec des chiffres qui ont vite décru. 1 200 000 en 2018, en 2019 600 000, en 2020 encore 3 fois moins, 210 000, alors qu'on aurait pu s'attendre à un léger regain, je dirais, de partage de contenu vidéo, dans la mesure où la situation appelait quand même à pas mal, je dirais, de découvertes culturelles, en matière de musique, en matière de films, en matière de séries. Alors, quelles sont les explications données par la Adopi? Bon, la première qu'ils mettent évidemment en avant, c'est que leur action préventive fait que les gens se tournent de plus en plus vers les plateformes légales. Vous savez, les abonnements type Netflix, Amazon Prime, Deezer, Spotify, vous savez, où on paye pour une somme forfaitaire le droit de consulter autant qu'on veut des œuvres. Ah, pardon, oui, c'est pardon.
La licence globale.
La licence globale. Non, monsieur, c'est du vol, la licence globale. C'est une spoliation. Ah, pardon.
C'est une loi d'un autre temps.
Ça, c'était l'argument des industries culturelles quand c'était pas eux qui le géraient.
Alors qu'aujourd'hui, c'est pas eux non plus qui le gèrent. Hein, c'est les sociétés américaines qui le gèrent.
Et mine de rien, le piratage.
Un micro.
Mon petit micro. comme le disent les détracteurs du partage culturel, ça commence à revenir parce que, bon, au début, c'est vrai qu'avec des plateformes Deezer ou Netflix, c'est vrai que pour une somme relativement raisonnable, il faut l'avouer, vous avez le choix dans un catalogue qui est assez vaste. Sauf que ce n'est pas les seuls à avoir eu la bonne idée. Hein. Non, vous avez Netflix, vous avez, alors je ne fais pas de pub, hein, Disney+, vous avez Amazon Prime.
Et Apple TV, il y en a beaucoup trop.
Et le problème, c'est qu'on se retrouve à un problème que les amateurs de football, il n'y en a pas forcément beaucoup ici, mais Pierre connaît peut-être pas le problème, mais je vais l'expliquer, c'est que vous voulez suivre votre club de foot, il faut vous abonner à pas mal de services, mine de rien, parce que les droits télé du football sont facilement répartis entre 3-4 chaînes. Et pour les œuvres culturelles, c'est la même chose.
Tout à fait, et ça pose
beaucoup
de problèmes.
Le succès croissant de l'IPTV, alors l'IPTV est une technologie, mais je dirais de l'IPTV pas très légale, hein, où vous abonnez à un fournisseur n'ayant pas vraiment de lumière sur rue, et le retour du bon vieux...
Décodeur pirate.
Oui, c'est ça. Oui, bon, c'est pas loin. En fait, c'est pas loin.
C'est pas loin, c'est
alors,
pas loin.
Si, effectivement, le décodeur s'avère être une box Android. Pardon, j'ai donné un moyen d'accéder à des œuvres.
Alors oui, attention les gens.
Vous avez pas entendu box Android, hein, vous ne l'utilisez
pas de marque.
Que les services ou box, comme vous voulez. Enfin, qui permettent d'installer les APK. J'ai rien dit, pardon, excusez-moi, monsieur le gendarme, monsieur en bleu qui vient me chercher.
Et pour revenir sur le sujet de la Adopi, une autre raison qu'ils ont donnée...
Effectivement, c'est le fait que, avec la pénurie d'IPv4, tu vois que mine de rien, le non-passage à IPv6, ça a quand même des effets pas forcément si funestes, c'est que les opérateurs sont obligés de recueillir au NAT, donc avoir partagé, oui c'est un NAT.
Audio. En gros, plusieurs personnes ont la même IP.
La même adresse IP, ce qui fait que Avec seulement l'adresse IP, vous ne pouvez pas savoir qui est derrière. Donc, bon, la France étant quand même encore un état de droit, si on ne sait pas définir qui est le coupable, on ne peut pas poursuivre les coupables potentiels.
Voilà.
Non, la France est encore un état des droits. On verra ça en mars.
En avril 2022.
En mai 2022, pour le moment, ça l'est toujours. Alors, on pourrait aussi effectivement, il faudrait l'information du port, puisque du coup, bah, votre connexion est découpée par plage de port. Donc, a priori, il y a quand même des négociations entre opérateurs téléphoniques, enfin les opérateurs plutôt de services, les FAI et l'industrie culturelle, pour récupérer également cette information qui pourrait permettre d'identifier l'abonné fautif. Mais on n'y est pas encore. Donc a priori, hein, c'est 30% donc, des adresses IP que l'on ne peut de manière certaine rattacher à une personne. Voilà, voilà.
Et je ne sais même pas s'ils gèrent du PV6 à la Dopi en plus.
On va pouvoir trop leur demander. Pierre.
Non.
Survie du contenu Flash. Vous savez que donc Flash a été abandonné, n'est plus maintenu. On ne va pas vraiment le déplorer, sauf que pour la conservation des œuvres qui ont été créées, enfin, la mémoire d'Internet, il y a quand même du Flash qui a été beaucoup utilisé. Ce serait quand même une grosse perte. Et a priori, l'entreprise donc, qui avait racheté Flash, Adobe, s'en fiche un petit peu.
Tout à fait. Alors là, ça fait depuis janvier 2021 que le développement, le support de Flash est arrêté, que c'est fini. Sauf dans un pays, où, en Chine, où Flash est encore disponible parce qu'il y a une trop grosse dépendance. Bah, notamment, je crois que c'est les réseaux de transport qui dépendent encore pas mal d'applications en Flash pour leurs écrans d'information, ce genre de choses. Et du coup, dans ce pays, bah, ils continuent de distribuer Flash. Et plutôt que de dépendre de sources non fiables, on va dire, pour obtenir des versions de Flash encore fonctionnelles aujourd'hui, quelqu'un s'était dit, ben, je vais prendre ce Flash encore fonctionnel diffusé en Chine et je vais juste le nettoyer pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Et ben Adobe a dit non. Voilà. Allez vous faire foutre, hein, le contenu Flash n'existe plus, il n'y a plus rien.
Allez vous faire cuire un œuf, Pierre. Ici, nous sommes dans une émission, on le dit dans le langage châtier, ce langage de Braillard, Pierre n'a rien à faire ici, je vous en prie.
Non mais ouais, c'est le point de vue d'Adobe.
C'est une émission de qualité, monsieur, sur une radio de qualité.
Tout à fait.
Blocage des sites porno en France, Pierre prépare le popcorn.
Ah oui,
le popcorn, rassurez-vous.
Là, il y a vraiment de quoi se marrer. Alors pour l'instant, c'est un peu bloqué. Il y a eu un échec devant le juge des référés, donc la balle est dans le camp du CSA. Et donc, on va beaucoup s'amuser. Donc, il y a eu une demande des associations e-enfance et la voix de l'enfant pour bloquer un ensemble de sites pornographiques. Et donc, on va en très très court, l'idée, et celle-là, elle me fait beaucoup rire, c'est que du coup, les sites qui n'ont pas de solution pour authentifier l'utilisateur et vérifier que l'utilisateur a plus de 18 ans. Au passage, une carte d'identité électronique avec une application pour ça, ça aurait marché très très bien, mais fallait le faire il y a 15 ans, bande de losers. Enfin bon, passons. Et du coup, donc les sites pornographiques qui ne contrôlent pas correctement l'âge des visiteurs, c'est-à-dire autrement qu'en disant « Vous avez bien plus de 18 ans, hein, cliquez ici si vous avez plus de 18 ans. Hein, sinon, fermez cette fenêtre. Attention !» Et donc, les sites pornographiques qui ne respectent pas cette règle, qu'est-ce qu'on leur fait, hein, qu'est-ce qu'on fait? Alexandre, je vous le demande, que fait-on?
J'attends la réponse avec impatience.
Eh bien, la solution qui a été trouvée, c'est de dire tous ces sites, on va les rediriger, parce que c'est des gros vilains, on va les rediriger vers le site du CSA.
C'est
brillant. Ah, c'est brillantissime. C'est la meilleure idée du monde, les mecs. Allez-y, s'il vous plaît.
Ils avaient peur pour...
Non, mais c'est pas une blague. Ils veulent vraiment le faire.
Ouais, je te crois, Pierre.
Ils vont le faire, a priori, une fois que ça aura passé la nouvelle barrière.
J'annonce que le site du CSA sera bientôt le site le plus consulté de France.
Ben, surtout le site...
Au-dessus de Facebook, au-dessus de Google, vous aurez le CSA.
Le site le plus down de France aussi. Parce que...
je vous avoue qu'ils ont intérêt, effectivement, à prévoir la charge, parce que... Après voir la bande passante et après voir les serveurs qu'ils voient avec.
Alors, il y a une métaphore qui a été faite par un avocat, je ne sais pas de qui il est. C'est, je me permets de citer.
L'autre balancer souverain.
Ah, là. Donc là, je cite, un peu comme si on détournait une ligne TGV à fort trafic par les petits chemins de campagne un 31 juillet.
L'image est plaisante.
L'image est plaisante, mais c'est en deçà de la réalité, je pense. Et ça, c'est qu'un seul des problèmes techniques, parce que l'autre problème, c'est que ben, les sites pornographiques, comme plein de sites, ils sont passés en HTTPS, donc avec du chiffrement. Les navigateurs web contrôlent que, tiens, c'est marrant, le certificat qu'on montre, c'est pas le certificat qui est censé avoir ce site, c'est pas normal. C'est n'importe quoi. Comment le site du CSA va se mettre à avoir dans ses logs la liste des gens qui ont essayé de consulter les sites pornographiques en question? Mais niveau vie privée, mais c'est une calamité, c'est impossible. Et bon, pour l'instant, ils l'ont pas fait, parce que devant le juge des référés, c'est pas passé. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, et on manquera pas d'en parler, parce que je pense qu'on va beaucoup rire cette année avec ce sujet.
Risons un petit peu avec la justice belge et
le CSA
qui n'est pas compatible avec le référentiel général de protection des données, le RGPD.
Alors, on va essayer de la faire très très court parce que ça va être, c'est un peu compliqué. EBCDIC, déjà, c'est un beau nom, qui aurait dû disparaître il y a 40 ans, mais qui est toujours présent. Donc, en fait, en très très court, l'informatique, ça manipule que des nombres. Du coup, quand on a la lettre A, il faut que ça corresponde à un nombre. On a défini, mettons, voilà, je suis Pierre, je crée ma propre table de caractères, je dis la lettre A, c'est la valeur 25, la lettre B, c'est la valeur 26, etc. J'ai créé une table de caractères. À une époque, chacun avait sa propre table de caractères, et notamment il y avait eu l'ensemble des tables de caractères, parce qu'il y en a eu plusieurs variantes différentes, les EBCDIC sur les mainframes, donc les énormes serveurs utilisés par les banques, assurances, etc. Format qui est complètement désuet depuis avant les années 80, qui aurait dû disparaître dans les limbes de l'histoire, tellement c'est de la merde. Vraiment. C'est, techniquement, c'est mauvais. Et du coup, dans les années 95, une banque en Belgique a fait une mise à jour majeure de son système informatique, mais étant donné qu'on est entré dans les années 95, plutôt que de se dire on va passer sur une technologie récente, hein, non, ASCII c'est peut-être un peu trop avant-gardiste, hein, ça date seulement des années 80, on va rester sur EBCDIC finalement. Ok, hein, si vous voulez, c'est débile, admettons. Et là où il y a une belle blague qui a été validée par la cour d'appel de Bruxelles, et j'aime beaucoup parce que c'est un point qui va être très utile, c'est un monsieur André Dupont qui voulait que sa banque l'appelle André Dupont et pas Andre Dupont. Et pour ma part, mon père s'appelle François, j'ai vu beaucoup de fois le problème aussi de la CDI qui s'en va en vacances. Et François, je suis désolé, ça fait con. Les CDI, c'est pas compliqué quand même. Et du coup, bah, la banque, au titre du RGPD, l'utilisateur a demandé « Est-ce que vous pouvez mettre mon vrai nom ?» Et la banque, du coup, eh ben, techniquement, ils peuvent pas. Parce que BCDIC, les accents, ils sont pas prévus dedans. Hein, sais-tu ? Ça, c'est pas possible, là. Ça rentre pas. Donc, pour respecter le RGPD, en théorie, la banque devrait recoder son système informatique interne.
Sachant que les banques, les systèmes informatiques, surtout ceux qui traitent le fichier client et l'argent, c'est pour ça aussi qu'on a aussi des vieilleries, c'est parce que ça tourne et c'est quand même.
On touche pas au grand.
Voilà, ça, tant que ça tourne. Que ça
touche tourne, pas au Grisby.
C'est exactement ça. C'est when in work, don't fix it.
Exactement. Donc, à suivre. Mais moi, j'ai trouvé extrêmement drôle cette petite décision de justice.
Du logiciel libre, de l'actualité du logiciel libre, c'est bientôt après Kara Square and Pierrot Peluche, Broken Records. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Attention has always been so very I'm
C'était Kara Square en Pierre-Opeluche, Broken Records. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités et on va parler logiciel libre, bien enfin. Évidemment. Sortie du logiciel GIMP 2.10.28, l'occasion de reparler, de remettre en avant un des logiciels emblématiques du libre, une des plus grandes alternatives au logiciel propriétaire, donc logiciel de graphisme, hein, GIMP, pour GNU.
Image Manipulation.
Oh là là, il est fort, il est très très fort. Donc c'est une mise à jour avec essentiellement donc, voilà, des correctifs de bugs. Hein. Comme une version, on va dire, relativement mineure avec des améliorations de performance pour les utilisateurs sur macOS, puisque c'est un logiciel multiplateforme. Alors, on n'est pas des graphistes, donc c'est pas forcément le logiciel qu'on utilise le plus, mais on voulait parler un petit peu de GIMP, donc disponible dans, bientôt dans vos distributions favorites.
Accessoirement, il y a eu pas mal de corrections de bugs sur la version Windows, qui a souvent été peu maintenue dans GIMP par manque de contributeurs. Donc, toujours intéressant aussi à prendre pour ceux qui sont sur cette plateforme. Et c'est aussi il y a eu un rappel aussi, le développement de la future version 3 de GIMP est en cours et ça approche progressivement. Il y a des nouvelles versions de test qui sortent régulièrement et donc bientôt peut-être un GIMP 3.
Alors Pierre, tu veux nous parler donc de la mise à disposition par Amazon d'un serveur open source, libre open source, d'ailleurs je suis open source.
Mais eh ben, que... et justement voilà, mon ami, merci
c'est
bien.
C'est qu'en français on peut faire la distinction.
Et en anglais on peut, mais il y en a qui n'aiment pas le faire.
Bubblefish, donc, qui permet d'utiliser donc, des requêtes prévues pour Microsoft SQL sur un serveur PostgreSQL.
Tout à fait. Alors, ce genre de sujet, on n'en parle pas dans cette émission d'habitude parce que c'est du hyper technique. Mais là, je voudrais en parler pour illustrer le comportement d'Amazon. Et en plus, juste après, on va parler un tout petit peu de Microsoft parce que je trouve que ça illustre très bien, justement, notamment la distinction open source et libre. PostgreSQL est un logiciel libre. Point. On ne peut pas discuter du sujet. C'est libre, c'est géré par une communauté. N'importe qui peut aller contribuer. Il n'y a pas de roadmap défini par une entreprise. C'est un vrai projet libre. C'est tout. Non discutable. C'est libre et open source. Amazon a décidé... pour notre offre cloud, on ferait bien un système qui soit compatible avec SQL Server, mais comme ça, on ne paye pas la licence, et on va l'appeler Babelfish, et ça va être une extension à PostgreSQL. Très bien. PostgreSQL est un logiciel libre, avec une licence assez permissive. Amazon n'avait pas l'obligation de rediffuser sa version modifiée. Mais Amazon décide de le faire. C'est bien. Sauf que, de la part d'une entreprise comme Amazon, je suis désolé, mais se comporter comme un petit enfant de 2-3 ans qui vient dire « Hein, regarde, j'ai fait dans mon pot, c'est joli !» Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça, la contribution au logiciel libre. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tous les développements dans leur coin. Ils sont bien amusés. Ils ont fait plein de trucs dans leur coin. Et puis, regardez, on contribue au logiciel libre, on diffuse notre code. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur un dépôt, ils ont pris le code de PostgreSQL, donc la dernière version, avec l'historique des modifications de ce code de PostgreSQL, et puis ils ont pris tous leurs changements et ils ont tout mis en un bloc. On a contribué, c'est vachement bien. Ils ont fait.
Il y a l'esprit et la lettre. C'est toujours ce.
Voilà, ils ont respecté.
Ce que tu dénonces d'ailleurs depuis longtemps.
Oui, oui.
La lettre est parfaitement respectée. Ils ont fait des changements, ils ont respecté la licence. Même, ils ont même, sont même allés au-delà parce que c'est une licence a priori pas copyleftée. Donc, ils n'obligeaient pas à redistribuer les sources des modifications. Ils l'ont fait quand même. Il y a presque l'esprit. Mais pour toi, logiciel libre et il y a projet libre, j'ai envie de dire.
Voilà, là ils ont chié leur code dans un coin. Voilà, c'est bien, on a respecté la lettre. C'est comme à l'époque d'Apple qui a tué KHTML, le moteur de rendu de page web de KDE, en faisant WebKit et en respectant la lettre, c'est-à-dire on diffuse le code, on donne le code. Par contre, on ne dit pas tout ce qu'on a changé. Hein, vous démerdez-vous, ça c'est votre problème. On ne donne pas les rapports de bugs, on ne donne même pas les fichiers de test, etc. Voilà, c'est Amazon fait pas du libre. Pas de l'open, enfin c'est le minimum syndical. Alors peut-être qu'ils vont s'améliorer, mais aujourd'hui.
Parler d'Amazon, attitude similaire de la part de nos amis de Microsoft.
Ils sont plus putes. Je dirais pas similaire, je dirais plus putassiers. Donc il y a eu un ensemble d'actualités autour de Microsoft ces dernières semaines, autour du logiciel libre. Déjà, juste une toute micro-brève qui tient en deux phrases. Microsoft diffuse dans Windows 10 et Windows 11 des logiciels libres, donc notamment Curl et TAR, donc un logiciel pour faire des téléchargements en vitesse en ligne de commande et un logiciel de gestion d'archives, avec des failles de sécurité critiques dedans qui n'ont toujours pas été corrigées. Failles de sécurité qui ont plus de 2 ans. Mais bah, on prend le code libre et puis on l'intègre et puis on le diffuse et voilà, tout va bien. Ah non, en fait, faut suivre les mecs derrière ce que vous faites. Voilà, pour tous les gens qui disent « Oui, Microsoft, ils sont vachement plus forts en sécurité, je sais pas trop. » Et autre élément, autre sujet assez rigolo, .NET. .NET, système de développement de Microsoft qui a été ouvert avec une fondation pour gérer la gouvernance du projet, que ça va être vachement ouvert et tout. On pouvait croire que ça allait être proche d'un logiciel libre. Hein, franchement, faut pas déconner. Quelques illustrations. Déjà, il y a pas mal de gens dans la fondation .NET qui sont en train de se barrer ou de dire oh non mais c'est... à quoi qu'on sert en fait, avec notamment un point très rigolo, c'est que la fondation .NET elle a pas tant de pouvoir que ça, puisque la direction de la fondation .NET est contrôlée et enfin est nommée par Microsoft avec un pouvoir de veto absolu sur toutes les décisions.
À quoi t'attendais-tu en même temps ?
Je ne m'attendais pas à mieux.
Microsoft est évidemment encore devenu une œuvre de bienfaisance, et même s'ils ont pacifié leur rapport avec le monde du libre par nécessité, parce qu'ils n'avaient plus le poids suffisant pour résister face à des mastodontes devenus équivalents, voire plus puissants qu'eux, comme Google ou Facebook, il y a quand même un historique. Tu peux pas balayer 40 ans d'histoire contre la liberté numérique comme ça.
Ah, tout à fait, tout à fait. Mais ils prétendaient s'être améliorés. Donc déjà, on a eu ce premier écho, ça date du début du mois d'octobre. Et il y a eu un deuxième écho, alors lui, un peu plus limité, parce que c'est un écho technique que je vais vous rapporter quand même. En gros, sur leurs outils de développement, ils ont développé une nouvelle fonctionnalité très intéressante. Et ils ont dit, on la développe sur la plateforme .NET, donc c'est disponible avec l'outil en ligne de commande et c'est intégré dans Visual Studio. Puis... Ah, en fait, la version en ligne de commande qui marche aussi sur Linux, il y a des bugs, on va la désactiver. Voilà. Et on supprime tout le code et dit, pouf, n'existe plus. Et, on le réintégrera pas, hein, c'est un élément différenciateur de Visual Studio. En gros, ils ont pris leur logiciel libre open source, puis ils ont dit « Ah merde, en fait, on est en train de faire un concurrent de notre propre logiciel propriétaire, on va supprimer les fonctionnalités, hop, on cache tout. » Et puis comme ça, c'est... mais si, il est bien notre logiciel libre, il est vachement bien. En gros, ils veulent transformer le logiciel qu'ils vendent comme étant soi-disant, enfin qu'ils promeuvent comme étant libre, et vu en interne comme étant finalement un appel pour leur produit commercial payant.
Ouais, c'est un peu le modèle du freemium.
Exactement. Mais du coup, le free signifiant libre, pour le coup. C'est assez dégueulasse, je trouve, comme méthode.
On retrouve la dégeekalisation après un troisième morceau de musique qu'on va écouter, Tab Old Moon. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com partout dans le monde. This is your destination, please check your interface. We got no reservations, but we go where we please. Shake it off. I'm taking off. Watch what you believe. New indoctrination. We write everything you read. We're showing off. Just blow it off. Switch that conversation. We'll watch you what you speak. You got obligations. We got everything we need. Let's walk the dog. Let's watch it get off. You don't get a break. You can't pay the rent. I'm in outer space. I'm a guy. You should probably get a job. I need new machines. I need all.
nation, teach them with the feet. Whole new generation, they can shoot, but they can't read. Lord, help us all.
We're dumb and growing tall.
No explanations, we supply the screens. Build up confrontations, split them up in teams and piss them off.
We'll wave the flag and kiss the cross.
This is preservation, it's all been engineered. He made some accusations, but then he disappeared. Who would have thought?
Somebody just wiped them off.
C'était Tab Holman. Vous écoutez les Connect News sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Doctolib et sécurité. Dis donc, Jamy, tu te serais pas un petit peu planté ?
Tout à fait. Alors, le Jamy en question, je pense que vous le connaissez tous.
Oh là là, Pierre, bien joué.
Évidemment.
On l'aime bien en plus.
Je l'aime beaucoup.
On lui doit beaucoup de notre culture scientifique à cet homme, à Fred, voilà. Et à Jamy.
Jamy, du coup.
C'est pas quelqu'un pour lequel on a le moindre hostilité.
Ah, tout à fait. Mais juste, il a dit des bêtises. Je me permets de faire une petite correction. Donc, Jamy, pendant le premier confinement, s'est dit, tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube. Donc, très intéressante, assez bien construite, c'est franchement sympa. Avec des passages rigolos, etc. Et au début du mois, il a fait une vidéo. Alors, je voulais répondre directement, mais je suis désolé, j'étais malade la semaine dernière, il y a 2 semaines, donc je n'ai pas pu répondre tout de suite, sur « On décrypte vos données de santé », avec des aspects sur les données privées, etc. Il y a eu toute une première partie, très bien, sur la définition d'une donnée personnelle, d'une donnée de santé, etc. Et il y a eu quelques définitions techniques qui m'ont fait me taper la tête contre mon bureau, ce qui m'a fait assez mal, et du coup, je tiens à ce que ce soit un petit peu redit.
Il est généré par le site web que vous consultez, et il permet par exemple de mémoriser vos mots de passe pour vous connecter sans avoir à les taper à chaque fois. Les cookies.
Il parlait des cookies. Non, les cookies ne stockent pas vos mots de passe. Ne croyez pas ça. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. Les cookies gèrent votre session.
Décevant d'ailleurs parce qu'il nous habitue à plus de rigueur même.
Oui, et là,
il est déçu. Parce que c'est qu'on l'aime bien qu'on est déçu.
Oui, il y a quelques points qui sont importants et qui sont justement qui ont été mal dits là-dedans. Et ça me déçoit parce que du coup, c'est assez bloquant. Non, les cookies ne stockent pas les mots de passe. Du coup, vous pouvez désactiver les cookies. Vos mots de passe sont stockés par votre navigateur, tout ira très bien. Alors après, bien entendu, on continue. Et il y a eu d'autres petits problèmes. Donc toujours sur les cookies, donc attendez, je charge la suite.
Linguistique. Globalement, ils sont très utiles pour améliorer la navigation sur Internet, mais ils fournissent aussi des informations sur votre activité pour vous faire des offres commerciales. Pareil.
Il oublie un point très important, les cookies, il y a les cookies et les cookies. Il ne précise pas, on différencie dans la loi les cookies fonctionnels et les cookies
publicitaire.
Les cookies fonctionnels, les sites n'ont pas à vous demander pour les activer. Vous n'avez pas l'obligation, de toute façon, et vous ne pouvez pas les désactiver, les cookies fonctionnels. Par exemple, le cookie qui gère votre session sur un site, il est là, et il tourne, et il n'y a pas besoin d'un bandeau cookie. Quand il y a un bandeau cookie, c'est qu'il y a quelque chose de crade qui se cache. Donc, quand on a un bandeau cookie, il ne faut pas hésiter à refuser tout ce qu'on peut refuser.
D'ailleurs, le site de l'Écho des Gnous, nous avons notre podcast, hein, echodesgnous.org, on vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 4 semaines, il n'y a pas de bandeau cookie, c'est pas qu'on ne respecte pas la loi, c'est qu'on ne place pas de cookie publicitaire sur votre navigateur.
Voilà, on n'a pas besoin. Si un cookie, c'est un cookie fonctionnel, on n'a pas besoin de demander. Bref. Reprenons la vidéo. Donc, la vidéo, ensuite, il y a tout un passage que j'ai pas beaucoup apprécié. Honnêtement, je me demande si c'est pas de la à ce niveau-là, j'ai commencé à penser que c'était de la sponsorisation cachée pour Doctolib, pour le service de rendez-vous qui a été largement mis en avant par notre cher gouvernement. Donc, avec toute une partie sur les données de santé et leur sécurité.
C'est bien ça. Mais avant de les supprimer, quelqu'un peut-il avoir accès à ces données de santé ? Personne, ou presque. Sur le site de prise de rendez-vous, les données fournies ne sont accessibles qu'aux patients concernés et à son médecin.
virgule, et à l'opérateur du site en question, et à tous ses prestataires techniques, puisque le site en question ne chiffre pas de bout en bout, c'est techniquement quasiment impossible. Une seule entité, à ma connaissance, aurait la capacité technique de chiffrer de bout en bout l'ensemble des données, le GIE Sésame Vital. Et de mon point de vue, un vrai système de soins avec une plateforme sur Internet, il faudrait que sur votre ordinateur, vous puissiez glisser votre carte vitale, et là seulement, vous pouvez lire vos ordonnances. Et votre médecin lit sur son ordinateur sa carte vitale, dans le lecteur qu'il a déjà chez lui, et il peut rédiger et signer les ordonnances, les arrêts de travail, tous les documents.
Un petit peu comme l'usage qui est fait des cartes d'identité en Belgique.
Exactement. On revient. Là. Moi, j'aime les cartes d'identité belges parce que c'est exactement ce qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Et qu'on aurait pu faire depuis 20 ans et qu'on a juste laissé tomber comme une vieille chaussette alors que c'est une super technologie. Là, Doctolib, c'est une fuite majeure. Une plateforme comme Doctolib, de toute façon, ça ne peut pas. À partir du moment où vous n'avez pas besoin de quelque chose qui vous soit propre pour accéder aux données, et je suis désolé, un mot de passe qu'on peut remettre à zéro, ce n'est pas quelque chose qui nous est propre. À partir du moment où on n'a pas besoin de ça pour lire les données ne sont pas en sécurité. Et enfin, pour finir sur cette vidéo, il y a une dernière partie qui est indiquée par Jamy. Donc je vais vous la passer tout de suite. Elle est un petit peu plus longue, elle fait une dizaine de secondes concernant les mots de passe.
Complexifiez un maximum les mots de passe de vos comptes. Évitez les dates de naissance de vos enfants, le nom de votre chien ou de votre poisson rouge.
C'est pas faux. C'est pas faux, mais ça n'aide pas du tout. Alors déjà, un petit élément visuel donc, que vous ne pouvez pas voir, mais je vous retranscris. Il a fait apparaître un exemple de mot de passe à l'écran. Donc sa chaîne s'appelle aussi Chez Jamy. Et le mot de passe qui apparaît à l'écran, c'est CH3ZJ@MY.21. Chez Jamy, !.21. C'est un mot de passe abominable. C'est un mot de passe mauvais. J'ai pas d'autres mots. Et en fait, on est sur le problème majeur des mots de passe. En plus, l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, a publié un rapport au mois d'octobre pour expliquer...
On a parlé d'ailleurs lors de l'émission précédente.
Tout à fait. Les mots de passe, on est sur un modèle qui est complètement con. Le mot de passe doit être compliqué, ne peut pas être retrouvé, c'est-à-dire que le mot de passe n'est pas humain. Le mot de passe est un élément inhumain. Donc à partir du moment où on demande à des gens, à des humains, de faire quelque chose d'inhumain, on a raté une étape. Combien de mots de passe retiens-tu, Alexandre ?
Pas mal.
T'en as besoin vraiment tous les jours, toi ?
Ouais, il y a des... Oui. Oui, j'ai besoin de mots de passe.
Parce que moi, pour ma part, sur mes ordinateurs...
J'ai pas de CSO complet, si c'est
non,
la
non.
question.
Ah non, c'est pas la question. La question, c'est que moi, sur la plupart des sites
web... J'ai une partie où même avec le CSO, j'ai besoin d'un mot de passe derrière.
La plupart des sites web, maintenant, j'utilise Firefox. Et donc, dans Firefox, quand je m'inscris sur un site, je clique sur le champ mot de passe et il me propose un mot de passe généré aléatoirement et sécurisé. Et je laisse Firefox faire ça, et je laisse Firefox mémoriser les mots de passe stockés sur mon disque dur.
Je vois un problème, on t'en parlera peut-être lors d'une dégicalisation, c'est que les portefeuilles de mots de passe, c'est très bien quand tu utilises toujours la même machine.
Sauf que dans Firefox, il y a une fonctionnalité de synchronisation de ton compte entre
il
plusieurs machines.
Il faut pouvoir choisir ton navigateur à chaque fois que tu utilises un ordinateur.
Ouais, mais quand tu peux pas choisir ton navigateur, tu lui fais pas confiance, donc tu te connectes pas.
Il y a la théorie et la pratique. Pierre, il reste 1:20 dans cette émission.
Oui, et j'ai fini ma dégigation, puisque la vidéo de Jamy était terminée là, avec cette erreur-là qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup chagriné.
Bon, aussi, sur le mot de passe humain, il y a la phrase de passe. C'est une phrase qui n'a pas de sens, sauf pour vous.
Même là-dessus, les dictions... Voilà, il faut qu'elle n'ait pas de sens, sauf pour vous. Et malheureusement, le cerveau humain est extrêmement faillible. Vous allez, sans vous en rendre compte, faire une citation de film, de jeu vidéo, de livre, de quoi que ce soit. Et les dictionnaires de mots de passe pour faire les attaques contiennent les citations de tous vos films préférés.
Même ceux que vous n'aimez pas.
Même Le Grand Détournement va être dans un dictionnaire de mots de passe.
Merci Pierre, c'était le 228e numéro de l'Econegnou. On se retrouve dans deux semaines.
Et on va manger des chips.
On va manger des chips, tu entends ça, des chips, c'est tout ce que ça te fait quand on dit qu'on va manger des chips, Pierre. Nous serons donc le dimanche 14 novembre à 19h, comme d'habitude, de 19h à 20h sur Radio Campus 11,6, campusville.com et la radio numérique terrestre. Cet épisode sera donc en podcast dans les prochaines heures sur econegnou.org. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end et vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento maintenant. Au revoir à tous.
Au revoir. Et oui, et www.ecodenou.org. Et dans deux semaines, on parlera de son hébergement qui a un peu foiré. Désolé.